Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio, dès la fin du couvre-feu, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé, ou l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr, ou dans l'application de Radio France. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose et de la fascination qu'elle exerce sur les artistes depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. L'exposition Hypnose, actuellement au Musée d'Art de Nantes, est à visiter jusqu'au 31 janvier. Et pour nous en parler, le commissaire de l'exposition, l'historien de l'art Pascal Rousseau. Bonjour Pascal Rousseau.
Bonjour.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Hypnose et perte de soi. Hypnose et magnétisme. Hypnose et somnambulisme. Hypnose et médecine. Hypnose et extase. Hypnose et art.
Pascal Rousseau, vous êtes professeur d'histoire de l'art à Paris, à la Sorbonne, spécialiste des avant-gardes historiques et des débuts de l'abstraction, des liens entre imaginaire, science et technologie dans la culture contemporaine. Vous avez été le commissaire de quelques expositions que nous avons beaucoup aimées ici sur France Culture, surtout ceux qui ont un peu notre âge, comme Robert Delaunay, de l'impressionnisme à l'abstraction, c'était au Centre Pompidou en 1999, mais sinon il y a eu aussi aux origines de l'abstraction au Musée d'Orsay, sous influence résurgente de l'hypnose dans l'art contemporain. Déjà, c'était au Musée des Beaux-Arts de Lausanne en 2006. Et puis, Cosa Mentale, les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle au Centre Pompidou-Metz. Ça, c'était peut-être votre dernière exposition avant celle-ci, consacrée à l'hypnose.
C'était le premier volet, quasiment. Le premier volet d'un duo, en fait. Les expositions de Metz et de Nantes se répondent, en fait. La première était consacrée à un sujet peut-être encore plus interlope que celui de l'hypnose, donc la télépathie, une sorte d'analyse des imaginaires en définitive de la télépathie et ce qu'ils ont fait à l'art en fait, et en particulier à l'art du XXe siècle, obsédé par la dématérialisation. Et puis là, l'idée c'était de continuer sur les cultures psychiques, je vais les appeler comme ça, et d'interroger un autre lien qui me semblait alors là beaucoup plus solide, sur une durée un petit peu plus longue, qui allait en fait de la fin du XVIIIe à aujourd'hui et qui essayait d'interroger justement les relations entre l'art et l'hypnose.
Et vous êtes l'auteur de ce livre qui sert aussi de catalogue de l'exposition « Hypnose, art et hypnotisme de Mesmer à nos jours ». On va peut-être commencer par expliquer qui était ce Mesmer.
Donc en fait l'idée c'est de partir là où a commencé cette aventure dans le monde occidental, puisqu'on pourrait se dire l'hypnose, après tout on a des traces égyptiennes, des traces archéologiques en fait de cette relation particulière et de cet état modifié de conscience. Ce qui m'intéressait moi, c'était plutôt d'interroger en fait cette aventure dans la modernité et de voir que en histoire de l'art par exemple, la modernité on l'origine toujours avec les débuts du romantisme, la fin du 18e. Il se trouve que en fait dans le champ de la psychologie, puisqu'il s'agit de cela, il apparaît en fait assez vite le terme qui ne prononce pas encore son nom d'hypnose. Il s'appelle magnétisme animal. Il va s'appeler ensuite somnambulisme artificiel et au début du 19e siècle s'appeler hypnose ou hypnotisme. Et tout ça s'origine avec un personnage très curieux. C'est un médecin qui vient de Vienne et qui fait fortune, on peut le dire d'ailleurs, dans son salon, invitant tout Paris à une cure magnétique. Donc il est intimement convaincu que tous les maux de l'esprit et du corps sont liés à une mauvaise circulation d'un fluide qui circulerait en définitive tout autour de nous. Il suffit simplement de le recharger en fait, ce fluide dans le corps et dans les esprits, pour pouvoir rétablir en quelque sorte la santé. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre cette thérapie du corps comme cela, de magnétisme? C'est parce que c'est que très très vite chez Mesmer en définitive tout cela se transforme en une sorte de dramaturgie des expressions sont des crises, des convulsions, des corps qui s'expriment. C'est toute une en fait grammaire en fait de l'émotion qui très très vite va intéresser les artistes.
Est-ce qu'il va laisser des études qui aujourd'hui on peut les considérer comme scientifiques, ou est-ce que c'était un fou, un artiste perdu dans le monde scientifique, même s'il a vu cette sensation de pouvoir effectivement parler de l'inconscient et de travailler autour de l'inconscient?
Alors il a vraiment ouvert cette brèche. J'ai envie de dire c'est peut-être pas lui d'ailleurs qui a ouvert cette brèche, ce sont plutôt ses disciples, les disciples qui arrivent très très vite et qui arrivent justement sur la condamnation de la médecine officielle. C'est-à-dire que donc Mesmer, avec son baquet, accueille tout Paris, et très très vite d'ailleurs la médecine officielle tombe sur lui,
oui.
Le condamné, 1784, les commissions disent mais il n'y a pas de fluide du tout, tout ça est une médecine de l'imagination, tout ça se passe dans la tête des gens. Et on voit d'ailleurs apparaître ce qui est très moderne en termes d'épistémologie des sciences, l'idée du placebo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'existe sauf dans la tête des gens. Et c'est à partir d'ailleurs de cette critique qui sera faite à Mesmer. Mesmer qui était en succès phénoménal à Paris et qui est banni très 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 vite. Ce sont ses disciples, et en particulier le marquis de Puységur, toute l'histoire des débuts du somnambulisme artificiel, qui vont reprendre à leur actif cette affaire. Et alors là, qui vont la basculer effectivement du côté de l'art.
L'exposition Hypnose propose une plongée dans les profondeurs de la psyché, en compagnie de plusieurs artistes, ça on l'a dit, Pascal Rousseau, mais plusieurs artistes, mais surtout différentes époques, différents univers, de Gustave Courbet à Catherine Contour, hein, c'est-à-dire une chorégraphe contemporaine qui est connue pour utiliser l'hypnose afin de mettre ses danseurs en transe et libérer, dit-elle, le processus de création. Donc des peintres romantiques à la danse contemporaine, en passant par les surréalistes, bien sûr, André Breton avait un grand intérêt pour la psychanalyse, Marcel Duchamp, Auguste Rodin, Salvatore Dalí, les écrivains de la Beat Generation, les psychédéliques, le cinéma de Fritz Lang, et tout ça, ça suit aussi des évolutions scientifiques autour de l'hypnose.
Bah, l'hypnose, comme d'ailleurs Mesmer, va avoir ses heures de succès dans la médecine et puis immédiatement son bannissement. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a bannissement dans la culture officielle, et en particulier la culture scientifique, il y a transfert vers la culture populaire.
Ouais, donc l'art.
La culture populaire et l'art. Et là, ce qui est assez frappant, par exemple, c'est que quand on regarde un peu plus près cette histoire, et en particulier en s'arrêtant sur ce que j'appelle l'âge d'or de l'hypnose médicale, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, autour de Charcot, le psychiatre Charcot, la Salpêtrière, qui est en fait intimement convaincu que l'hypnose est le moyen de guérison sur des sujets particuliers, les hystériques, et donc les hystériques, évidemment, des sujets qui sont le sujet de l'expression. Tous les artistes vont s'emparer de cette question, l'expressionnisme est déjà là, et évidemment, on va en fait voir dans cette hypnose le lieu de la révélation d'une performance, des jeunes femmes, par exemple, comme Lina de Ferkel, qui passait sur toutes les scènes de l'époque, et qui était considérée comme une jeune femme tout à fait ordinaire, qui sous hypnose devient Sarah Bernhardt. C'est vraiment l'idée que l'hypnose, en allant en quelque sorte plonger le sujet dans des états seconds, et en particulier dans des états plus profonds, irait retrouver justement des ressources d'inventivité, de créativité. C'est un des pôles qui m'intéresse dans cette exposition, de voir en quoi est-ce que l'hypnose immédiatement est apparue comme un lieu de fertilisation de l'invention artistique.
Comment répondre à cette question? C'est vrai, que dit, que raconte, que reflète cet intérêt des artistes, plasticiens, musiciens ou danseurs pour les modes de transmission de l'émotion sous état modifié de conscience, Pascal Rousseau?
Tout ça apparaît très tôt, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. La première, c'est l'invention. C'est l'invention d'un vocabulaire nouveau. Alors, dans l'expo, par exemple, très très vite, dans la deuxième salle, par exemple, qui est consacrée au romantisme du premier 19e siècle, je fais un petit focus sur un artiste assez peu connu, alors qu'il l'était beaucoup à l'époque, Isabelle Théophile Bras, artiste officiel, sculpteur, vraiment ce qu'on peut appeler d'artiste traditionnel, prix de Rome et autres. Et puis dans une révélation somnambulique, il est pris en hypnose par sa propre femme, révèle une seconde personnalité qui là va lui permettre de crayonner. Il ne sculpte plus, il crayonne, et il crayonne surtout de manière extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il fait un vocabulaire qui anticipe sur ce que l'on voit aujourd'hui comme de l'abstraction pure, en fait, une sorte d'écriture automatique qui est d'une modernité que les surréalistes bien évidemment regarderont. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cela, c'est ce dédoublement. C'est-à-dire que l'hypnose immédiatement est perçu comme non seulement un lieu de ressources, une sorte de puisard dans lequel on va aller chercher des formes, des inventions, mais surtout aussi la possibilité de se réinventer soi-même pour aller justement réinventer des nouvelles formes. Dans le cas de Théophile Bras, ce qui est passionnant, c'est qu'il est très très conscient que ce qu'il fait là est l'art du futur. C'est-à-dire qu'il invente, il a conscience que c'est l'art du futur et que ses contemporains seraient pas dans la possibilité même de lire et de regarder cette œuvre, ce qui fait qu'il donne d'ailleurs tout cela à la bibliothèque de Douai. Tout ça est conservé comme un secret, en quelque sorte, à révéler plus tard pour ceux qui seraient possiblement ouverts à ce nouveau vocabulaire. On en présente 8, je suis ravi, puisque c'est des dessins magnifiques.
Pourquoi vous avez choisi, Pascal Rousseau, une scénographie qui privilégie plutôt la chronologie, c'est-à-dire partir de la fin du 18e pour arriver à aujourd'hui?
Alors c'est plus compliqué que ça, puisque l'expo en fait se joue en deux temps. Il y a donc 500 mètres carrés à peu près dans l'extension contemporaine du musée d'art de Nantes. Alors là, c'est effectivement une enfilade de pièces, qui est une enfilade chronologique qui part de Mesmer, donc 1780, jusqu'à la période la plus contemporaine, passant par la période justement du passage du siècle, Charcot, le surréalisme, le psychédélisme et autres. On l'a évoqué à l'instant en ouverture. Mais cette exposition est, s'adosse sur cette exposition une autre exposition, une seconde exposition, qui se passe donc à la chapelle de l'Oratoire, qui est un lieu que connaissent bien les Nantais, qui est une extension du musée. C'est une ancienne, une église, disons-le, parce que c'est quand même un très très beau volume, une église baroque, qui est reconvertie en espace d'art. Et là a lieu une installation spécifiquement créée à cette occasion, entièrement nouvelle, d'un artiste formidable qui s'appelle Tony Osler. C'est un artiste américain, un grand pionnier de l'art multimédia immersif. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend en fait tous les imaginaires qu'on a drainés. On reverra Mesmer, on reverra le lit de Charcot, on reverra Caligari et le cinéma expressionniste, qui n'est que un cinéma d'hypnose. Et le tout dans un tout autre ordre, bien évidemment, qui est un ordre en fait de celui qui est en fait celui de l'écran, bien évidemment.
Il y a d'ailleurs un iPhone. C'est la culture numérique là.
C'est ça. C'est-à-dire l'idée, c'est que on rentre là dans un autre espace-temps où tout se culbute et où l'on peut, de manière beaucoup plus expérientielle, être en définitive dans cet état d'hypnose. J'ai envie de dire que le parcours historique aura déjà permis de créer une petite induction, puisqu'il y a quand même pas mal de pièces qui jouent avec cela, qui sont des dispositifs d'hypnotisation, des spirales, Marcel Duchamp et autres. Mais quand on rentrera dans la chapelle, j'ai envie de dire que le sujet est préparé.
Pascal Rousseau, on va déambuler avec vous dans cette exposition Hypnose au musée d'art de Nantes. Mais tout d'abord, je voulais vous poser cette question, peut-être d'ordre personnel, mais avez-vous eu recours à l'hypnose dans votre vie?
Oui.
Pour arrêter la cigarette ou pour autre chose?
Alors, je n'ai jamais fumé, donc je n'ai pas eu à faire appel à l'hypnothérapie pour arrêter de fumer. Non, je l'ai fait par intérêt, bien évidemment, puisque comme je m'intéressais depuis un petit moment quand même à ce sujet, il était clair que je ne pouvais pas, m'y intéresser sans l'avoir expérimenté. Donc, très très concrètement, sans dévoiler quoi que ce soit,
vous pouvez dévoiler ce que vous voulez. Hein.
J'ai fait 4 séances chez un hypnothérapeute, un disciple de Roustan, de François Roustan, qui a été le grand réintroducteur de l'hypnose en France à partir justement d'une sorte de déplacement de la psychanalyse. Donc 4 séances qui m'ont suffi, je dois le dire, pour être en tout cas familiarisé un petit peu avec l'expérience, avec l'outil, son processus.
Et d'être convaincu aussi par cette science, diriez-vous que c'est une science?
Non, bien sûr que non, tout comme la psychanalyse ne l'est pas d'ailleurs, donc l'hypnose encore moins, mais en revanche c'est une technique. Et moi, ce qui me fascine en revanche, c'est l'écart abyssal qu'il y a entre la facilité de la technique. C'est très simple. En général, quand on va chez un hypnothérapeute, on s'installe dans un fauteuil et l'idée, c'est de se focaliser. C'est la concentration. Il ne faut pas être dispersé. Il faut se focaliser. Donc, en général, c'est votre main est contre le bras du fauteuil et ce contact vous intéresse et vous vous concentrez sur ce contact. Ce qui est le premier moment d'induction qui très très vite emmène vers une petite transe. Et ensuite, le second temps, qui est un temps en général du déplacement, la délocalisation. Vous allez dans une forêt, vous êtes proche de la mer, un lieu qui vous est intéressant, un biotope dans lequel vous vous retrouvez, une sorte de confort. Et c'est ce déplacement qui est intéressant. Moi, ce qui m'intrigue, je dois dire, beaucoup, c'est la facilité effarante du dispositif. Ça peut aussi des petites techniques de fixation d'un point lumineux et autres. Et le résultat, qui est quand même assez efficace. Sur des gens qui serait plus ou moins en résistance. Moi, je ne l'étais pas puisque je m'intéressais à ces questions, donc je suis pas du tout en résistance. Je suis très suggestionnable et je l'ai été encore plus d'ailleurs quand j'ai continué en définitive à essayer d'expérimenter cette technique avec une chorégraphe dont on a parlé à l'instant, Catherine Contour, qui est une danseuse, chorégraphe, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'elle appelle l'outil hypnotique pour la danse, mais qui pour cela, donc, évidemment, s'est familiarisée avec la technique, elle la maîtrise parfaitement, et j'ai fait plusieurs séances avec elle, où d'ailleurs je me suis révélé un grand danseur.
France Culture, le réveil culturel, Sophie Kakem.
L'exposition qui a lieu en ce moment et jusqu'au 31 janvier à Nantes au musée d'art, c'est un peu l'histoire de l'hypnotisme dans l'art, d'une manière d'ailleurs consciente ou inconsciente, hein. Peinture, sculpture, gravure, photo, film, art visuel et vivant, puisqu'il y a de la danse, de la musique, de l'écriture, et puis l'installation immersive dans la chapelle de l'oratoire juste à côté. Pascal Rousseau, est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or de l'hypnose dans l'art? Est-ce que pour vous c'est plutôt avec les surréalistes ou moi je dois vous avouer que c'est plutôt la robe, c'est-à-dire l'art psychédélique des années 60, hein, avec la littérature, mais aussi les représentations qui sont très très présentes d'ailleurs dans cette expo qui me plaisent le plus. Mais est-ce qu'on peut parler d'un mouvement artistique et d'un qui corresponde à un âge d'or de l'hypnose, et donc de l'hypnose dans l'art, bien sûr?
Je pense qu'il y a deux temps, enfin, qui sont presque les mêmes d'ailleurs. Pour moi, donc, bien sûr, le psychédélisme en fait grandement partie, mais j'ai envie de dire que le psychédélisme a cherché d'autres moyens d'entrer dans la transe. L'hypnose est une transe parmi d'autres. La méditation peut en être une. L'usage des psychotropes, qui a été plutôt le moyen accélérateur de la génération psychédélique. Pour moi, je remonterai le curseur chronologique un tout petit peu avant, puisque je pense que l'âge d'or, c'est les années 1890-1900, en fait, qui correspond au moment Charcot, au moment où Charcot donc fait entrer l'hypnose à nouveau dans le champ de la médecine, à nouveau sur des sujets très particuliers, les hystériques, et autour de cela va naître une iconographie, j'ai envie de dire, abondante en fait. Les artistes vont s'engouffrer dans cette brèche. Alors qu'est-ce qui m'intéresse, c'est justement ce transfert en fait du champ médical, hein, donc des expérimentations sur des sujets dans un hôpital psychiatrique, c'est la Salpêtrière, ça peut être aussi la Charité à côté, mais très très vite évidemment parce qu'il y a des images, et en particulier dans la culture populaire, hein, très très vite relais, puisqu'il y a un vrai débat autour de cette hypnose dont on cherche à comprendre et le mécanisme et surtout jusqu'où il peut aller. L'hypnose devient vraiment un vrai sujet, un vrai motif même, dont s'emparent les artistes. Le grand moment de tout cela, ça reste effectivement les années 1890-1900, avec un point d'acmé qui est celui pour moi de la sécession viennoise, c'est-à-dire en fait toute la modernité viennoise, j'ai envie de dire qu'elle est moins freudienne que charcotienne.
Ah bah tiens, mais si on parlait de Freud vis-à-vis de l'hypnose, c'est quoi sa position?
Alors sa position, elle est double, elle a d'abord été une position de passion, il faut le dire. Il a fait le voyage à Paris pour voir Charcot à la Salpêtrière. Il s'est passionné pour l'hypnose. Il est allé voir ensuite le compétiteur de Charcot, qui était le professeur Bernheim à Nancy, qui contrairement à Charcot, qui croyait que l'hypnose ne fonctionnait que sur des sujets particuliers, les hystériques, était intimement convaincu, lui, Bernheim, que tout sujet était suggestionnable. Il d'ailleurs proposait d'abandonner le terme d'hypnose et de parler plutôt de théorie de la suggestion, avec tout un développement d'ailleurs d'une théorie artistique sur la suggestion. Mais quand on regarde par exemple Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, il y a un Oskar Kokoschka dans l'exposition, Egon Schiele, j'ai envie de dire que toute la grande modernité viennoise, ce n'est que cela, hein, c'est-à-dire des corps contracturés, des catalepsies, des corps sous hypnose qui sont en définitive les corps de l'expressivité, le corps qui devient la surface d'expression par l'hypnose, justement l'état second, l'état modifié de conscience, révèle en quelque sorte une capacité d'expressivité inédite. Et alors l'époque s'engouffre dans cette brèche. Pour donner un autre exemple, hein, qu'on oublie souvent et qui est un petit exemple que j'essaie de développer en particulier dans le catalogue, c'est l'Art Nouveau. Alphonse Mucha, le grand affichiste de l'Art Nouveau, utilisait, on le sait, j'en montre quelques exemples, des sujets mis sous hypnose, la fameuse petite Lina en particulier, qui était une jeune femme tout à fait ordinaire et qui, dès qu'elle était mise sous hypnose, devenait Sarah Bernhardt.
C'est incroyable.
Donc, je pense que ce moment-là est un moment assez important dans la culture visuelle, c'est abondant. Il y a un second moment, moi, qui m'intéresse et qui est aussi une des options de cette exposition, c'est de montrer comment tout de suite les nouveaux médias de l'art s'emparent de cette question. Et j'ai envie de dire que celui qui va s'en emparer le plus et le plus naturellement, c'est le cinéma. Le cinéma apparaît à une période qui est celle plutôt du déclin de l'hypnose. Charcot devient un petit peu moins en mode en 1895. L'hypnose se déplace dans les cabarets, les cafcons, les danseuses hystériques, mais aussi dans le cinéma des attractions des premiers temps. Méliès fait une pièce avec le baquet de Mesmer, avec un magnétiseur, et puis surtout, quelques années plus tard, le cinéma expressionniste allemand en particulier, ce n'est que cela. Caligari, Mabuse, ce ne sont que des grands magnétiseurs, en général assez malfaisants. Et qui nous parle de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire on s'installe dans une salle confortable, on est face à un crépitement, on est dans un état d'hypnose.
Merci beaucoup Pascal Rousseau d'être passé nous parler de cette exposition qu'on recommande vivement, Hypnose. C'est bien sûr à Nantes, c'est le musée d'art de Nantes et c'est jusqu'au 31 janvier.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Ou en passant par l'application de Radio France. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la technique Mathieu Leroux. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure ou au même endroit si vous passez par le site de France Culture. Bonne journée.